vivant dans nos mémoires.
À l'émission « Vivant dans nos mémoires », nous vous proposons une entrevue avec Renée Hudon, animatrice de radio et de télévision. Elle est décédée en 2023. Yves Houd l'avait rencontrée en juin 2004.
Bonjour Renée Hudon.
Bonjour Yves.
Vous qui avez travaillé à la radio pendant des années, vous vous ennuyez de ce métier-là?
Je crois que je n'ai pas de nostalgie, c'est une question de tempérament. C'est très rare que je... sauf des êtres humains, ça je m'ennuie des êtres humains que j'aime et qui sont parfois loin de moi, mais je suis très honnête et pourtant j'ai adoré la radio, la télévision, j'ai adoré ce métier, cette carrière. Honnêtement, je ne m'ennuie pas. Mais je suis très bien ici, là. Hein? Ça me fait plaisir. Je me sens bien dans un studio. Je ne m'ennuie pas peut-être parce que je contribue, je pense, à transmettre la vieille expérience. Mais c'est un mot positif dans ce sens-là, d'avoir une vieille expérience. Parce que j'enseigne à l'Université Laval. Je suis chargée de cours en communication orale en public et en communication orale aux futurs enseignants du secondaire. Donc, une façon pour moi de tirer profit de ces 40 ans.
Vous avez enseigné aux cartes également, je pense.
Oui, j'ai enseigné avec ma bonne et belle amie Denise Verville. Oui. Je ne le fais plus, non pas par manque d'intérêt, parce que lorsque j'ai commencé à l'université, je ne pouvais être partout et Denise l'a bien compris. Donc, j'enseigne et parfois il m'arrive d'avoir des demandes de jeunes qui commencent une carrière dans notre métier en radio, télévision et que j'accompagne. Et ça, c'est très nourrissant. Ça me nourrit. Donc, vous comprenez tout ça pour vous dire que je n'ai pas le temps d'avoir de nostalgie.
Nostalgie du passé.
Oui, oui.
Vous avez donc exercé un métier public. Souvent, les
Allez-y, je suis une femme publique. Je suis une fille publique.
J'osais pas prendre l'expression comme ça qui risque d'être mal entendu. Mais donc, on vous a beaucoup connu et on a connu aussi un pan de votre vie privée et particulièrement, vous en avez parlé à l'occasion, j'allais dire beaucoup, mais c'est peut-être beaucoup maintenant, mais vous en avez sûrement parlé aussi à l'époque.
Je n'en avais jamais parlé. Vous faites allusion à
au fait que
Jeanne
vous êtes adoptée,
à jamais,
oui.
Que j'ai coécrit avec Richard Aubé. J'ai souvent parlé de mon adoption. Je n'avais aucun complexe. D'ailleurs, comme on l'écrit dans la pièce, mes parents adoptifs m'avaient toujours presque donné des complexes de supériorité, et je le dis en riant, bien sûr, en me disant « Toi, tu as été choisi. Tu vois, les autres enfants, eux, ils n'ont pas été tout à fait choisis. » Alors, quand tu es petite, quand tu as 3, 4 ou 5 ans, et tu te fais dire que tu as été choisi, alors ça évite bien des problèmes à l'enfant. Donc, je n'ai jamais eu de difficulté à parler de la situation de l'adoption. J'ai toujours encouragé des gens qui n'avaient pas d'enfants à en adopter. Je disais, regardez, bon, je suis quand même pas un pur désastre et je suis une enfant adoptée. Ce n'est pas vrai que les enfants adoptés sont nécessairement égoïstes, égocentriques, capricieux. Tout dépend de l'éducation qu'on leur donne.
Vous vous êtes mise à un moment donné à la recherche de vos parents naturels, donc de votre mère, et l'ayant trouvé, il s'est passé du temps et vous avez décidé d'en faire une pièce de théâtre.
Voilà.
Et c'est là que ça devient quelque chose de très public et donc maintenant on peut
parler
de ça.
Et c'est ce qui vous autorise à m'inviter pour en parler.
Voilà, à vous parler davantage. Mais malgré tout, rendant cet événement-là public, d'abord la pièce Jeanne à jamais. C'est brillant comme idée dans la mesure où c'est la rencontre, la première rencontre entre la mère et la fille Et cette rencontre-là permet aux deux de raconter leur vie. Donc, on sait finalement toute l'histoire pendant ces quelques heures de rencontre que les deux femmes ont dans un hôtel dans le nord de Montréal. Vous avez dit la vérité dans Jeanne et exactement ce qui s'est passé.
Tout à fait.
Il n'y a rien d'ajouté.
Écoutez, il y a, c'est quand même du théâtre.
Oui.
Hein? Il y a quelques éléments de fiction, mais on rirait, mais enfin, ce n'est pas le but de la rencontre aujourd'hui. Je vous défie de trouver ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mais je dirais qu'à 90%,
tout ce qui est là.
Tout est vrai. Ce sont des détails de chronologie parfois,
ouais.
des petits incidents qui ont été mieux présentés pour le théâtre, mais dans les faits.
C'était la perspective du théâtre qui vous guidait dans le choix des choses. Est-ce que vous vous êtes censuré malgré tout dans ce qu'il y avait à dire?
Une seule chose qui ne me concernait pas, qui concernait ma maman. Et elle a été extraordinaire parce qu'elle m'a laissé toute liberté. Vous savez que nous lui avons remis, Richard et moi, le scénario la veille de la représentation. C'est-à-dire que nous lui avions offert il y a 6 mois. Mais elle me disait non, non. Et moi, je disais, je n'ai pas terminé. Non, je vous fais confiance. Et la veille, Richard et moi, nous lui avons remis le scénario. Et nous lui avons... Et elle, évidemment, il était trop tard pour changer quoi que ce soit.
Ouais.
C'est vous dire la confiance. Mais elle m'avait demandé... de ne pas dire un seul fait de sa vie, si vous voulez, mm-hmm. un petit bon
un fait qu'elle avait,
un élément de sa vie,
d'accord.
un élément qu'elle avait vécu, et on n'en a pas parlé, ou enfin on l'a abordé autrement, mais je ne me suis pas censurée, c'était votre question,
oui, oui.
Je ne me suis pas censurée. Remarquez que, comme vous le dites, la pièce Jeanne à jamais, qui était présentée en lecture publique et non pas en jeu, en production théâtrale,
ouais.
ne durait qu'1h15. Et c'est la règle au Trident. Et c'est excellent pour donner place aux 45 minutes qui suivent, pour donner place aux échanges.
Mmh.
Donc, vous comprendrez que dans les faits réels, la rencontre a duré 4 heures.
Ouais, oui.
Et au théâtre, elle a duré 1h15.
Ouais.
Donc, il y a bien sûr, ce n'est pas tellement de la censure...
Comme de la sélection.
Mais de la sélection des éléments choisis par Richard Houbé et moi.
Et pourquoi René Hudon, vous avez décidé d'écrire d'abord, en faire une pièce de théâtre?
Oui. Je me pose parfois la question, mais je comprends de mieux en mieux. Et je pense que ma réponse va être assez simple.
Faites-nous faire le cheminement.
Oui. D'abord, je ne suis pas écrivain. Je ne me perçois pas comme une dramaturge. J'ai une écrivaine. Je connais trop, comme présidente du Salon du Livre, je connais trop d'écrivains de qualité pour penser que je suis une écrivaine. Pas du tout. Je suis une femme à qui est arrivé un événement exceptionnel dans sa vie et qui a souhaité le faire partager. Alors, la raison, je voudrais qu'il y en a peut-être plusieurs, mais je vais répondre, vous me permettez, en partie, parce que dans votre question, il y en avait deux. Pourquoi écrire et pourquoi choisir le théâtre comme expression? Je vais répondre à la deuxième d'abord, parce que c'est ce qui m'est le plus facile. J'ai une formation de comédienne,
ouais.
J'ai fait mon conservatoire d'art dramatique. J'adore le théâtre. C'est la plus... Même si ce n'est pas mon premier métier, c'est probablement ce que j'aurais aimé faire. Bon, la vie en a décidé autrement. J'aime le théâtre et j'aime l'écriture théâtrale. Et ça, c'est je réponds à votre question, pourquoi j'ai choisi, ça aurait pu être en poésie, ça aurait
oui.
pu être en roman, ça pourrait être en nouvelle. Remarquez que ce n'est pas exclu, hein?
Oui.
Peut-être.
Mais pourquoi avoir choisi de rendre ça public?
Mais voilà, et ça, c'est une question importante et je vous donne la réponse le plus simplement. Je l'ai fait... Écoutez, c'est presque une thérapie que j'ai fait avec Richard Aubé, je dois dire. C'est presque une thérapie dans le sens que Richard m'a amené à sortir, à lui raconter. J'ai commencé à lui raconter parce que c'est un ami très proche, mais je lui ai raconté. Et au fur et à mesure que je racontais, il me disait, mais il faut écrire, il faut écrire, il faut écrire pour d'autres. Je voulais l'écrire pour mes enfants. Je voulais que mes enfants et éventuellement mes petits-enfants, que je n'ai pas mmh. encore, mais j'espère que je serai grand-mère, et pour ma mère, avant qu'il soit trop tard. Elle n'est pas... Je la souhaiterais immortelle, mais elle ne l'est pas, et elle sait très bien qu'elle partira un jour, comme tout le monde. Et moi, je voulais, par ce geste-là, lui rendre hommage. Ça, c'était mes premières raisons, mes raisons du début.
Ça aurait pu rester familial.
Et voilà, exactement. Et la différence, c'est parce que ça, public. Je l'aurais fait, je l'aurais quand même écrit, rédigé, avec autant de rigueur, de patience et d'amour que nous en avons eu, et je l'aurais distribué en famille, à Noël, un beau petit cadeau.
Oui.
Voilà. Mais mon histoire n'est pas unique, elle est très belle, il y en a d'autres tout aussi belles, peut-être encore plus spectaculaires et d'autres malheureusement moins intéressantes dans le sens de l'affectivité. Et plus je racontais que j'avais retrouvé ma mère, et là je voyais des gens, ah oui, toi aussi, moi aussi, je suis adoptée, ah moi, et là je me rendais compte de l'importance de dire aux mères adoptives, aux mères qui ont biologique, hein, c'est un mot qui m'agace toujours, aux mères qui ont dû abandonner leur enfant. Ça aussi, l'abandon, c'est un mot qui m'ennuie, mais il faut bien le nommer comme ça, voilà. Et je voulais dire à ces femmes, surtout aux femmes, hein, pas parce que je suis une femme, et je suis plus près des émotions des femmes, je voulais dire à ces parents-là ce qui était arrivé et comment je l'avais vécu, de sorte que j'imagine que d'autres, et c'est le plus beau témoignage que j'ai eu au Trident, vous étiez là, je pense, Yves. Vous avez entendu la période de questions et j'ai reçu par la suite des lettres, des courriels et je m'en excuse publiquement. J'étais absente, je viens de revenir, je n'ai pas eu le temps de répondre. Et je me suis rendu compte de la nécessité de le faire. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains dans tous les sens du mot parce que ça demandait aussi de mettre de côté une certaine pudeur, de raconter des choses assez intimes, vous y étiez. Mais je me disais que ma pièce serait crédible, les gens me croiraient dans la mesure où moi, je ne tricherais pas. Ou moi, je ne présenterais pas ça comme artificiellement. Alors, je suis allée vraiment au fond des choses. Mais je dois vous dire que peut-être une semaine avant, j'ai eu peur. Une semaine avant, si le Trident n'avait pas fait la publicité, je l'ai dit à mes proches, je l'ai dit à Richard, j'ai peur. Est-ce qu'il est encore temps? Est-ce qu'on annule tout? Mais je ne l'ai pas fait.
Une chance. On s'arrête un moment, René Hudon. On reprend tout de suite après avec des éléments plus particuliers de cette histoire que vous avez vécue. Vous êtes à De Passage et je suis en compagnie de René Hudon. Nous parlons de sa pièce « J'en ai jamais » qui raconte un pan de sa vie. René Hudon, j'ai assisté donc à cette lecture au Trident. J'ai beaucoup aimé. Je me suis beaucoup demandé si cette pièce-là était de quelqu'un complètement inconnu, une pièce qui est une traduction américaine ou venue d'ailleurs, si elle aurait eu le même intérêt, le fait de savoir qui était la personne en question. Et bon, enfin... tout ça fait que j'ai aimé, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai aimé. Et en sortant, j'aurais aimé vous rencontrer immédiatement et j'aurais eu mille et une questions à vous poser. Depuis, ça fait déjà un peu plus d'un mois, les questions se sont un peu perdues, mais j'en ai gardé quand même quelques-unes donc de cette histoire-là et j'aimerais vous la poser.
Est-ce que vous me permettez de réagir à ce que vous venez de dire?
Oui, allez.
Retenez votre première question. Mm-hmm. Une journée de plus, on n'en est pas à une heure.
Non, on n'en est pas quelques minutes près. Ouais.
Parce que je trouvais ça intéressant, Yves, quand vous dites, est-ce que c'est vrai, je suis une petite fille de Québec, j'appartiens aux Québécois et c'est un grand bonheur pour moi, je l'apprécie et c'est peut-être aussi pour ça que de toute façon, tout le monde savait déjà plusieurs pans de ma vie, alors bon. Ouais. Mais quand vous dites, est-ce que si cette pièce avait été l'œuvre d'un auteur inconnu, une traduction, est-ce qu'elle aurait eu autant de succès? Moi, je crois que oui. Parce que le sujet est intemporel, international. Je suis convaincue. Le seul élément différent, c'est que peut-être pour une lecture publique, parce que là, ce n'était pas une production, peut-être y aurait-il eu moins de monde. Parce que je suis choyée, moi, par les Québécois, les Québécois, je me sens aimée, c'est un cadeau que je reçois encore aujourd'hui. Et j'ai l'impression que la seule différence, c'est ça, c'est que les gens Puis il y avait peut-être un petit élément de curiosité, mais moi, je ne l'ai pas perçu comme ça, je l'ai perçu comme un témoignage d'affection.
Oui,
je
beaucoup.
Me suis sentie aimée, je me suis dit, les gens qui viennent, c'est parce que, au fond, la petite Renée qu'ils ont connue et que souvent, il y avait des gens de 80 ans dans la salle, ouais. c'est-à-dire qui étaient là à mes débuts à l'âge de 10 ans, vous comprenez? Uh-huh. Alors, c'est la différence, mais le sujet, lui, qu'il ait été de moi ou de quelqu'un d'autre, je suis convaincue de l'intérêt du sujet.
Comment vos parents adoptifs vous ont appris que vous étiez adoptée?
Je pense que j'avais à peu près 3 ans, aussi loin dans ma mémoire. Je peux retourner à peu près, là, j'ai des souvenirs de 2 ans et demi, 3 ans, parce que nous avions déménagé à Trois-Rivières. Et je pense que mes parents, je n'en ai pas beaucoup parlé avec eux, ou du moins je ne m'en souviens pas, parce que c'était tellement simple, ça faisait tellement partie de nos vies, que ce n'est pas le genre de choses que j'ai...
Ouais, on discutait chaque jour.
Pas du tout. Mais je pense qu'ils craignaient l'arrivée à l'école. Mm-hmm. Et ils se sont dit... Il faut qu'elle le sache, parce que nous habitions une petite ville, Trois-Rivières à l'époque, qui était encore plus petite qu'elle est.
Aujourd'hui.
Et ils ont drôlement bien fait, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la pièce, quand ma mère me demande si on m'a insultée, elle a beaucoup de difficultés à prononcer le mot, est-ce qu'on t'a traité de bâtarde? Et je lui dis non, mais on m'a traité de zoulou. Et ce fait-là est authentique dans la cour de l'école de l'Immaculée Conception à Trois-Rivières. Une petite fille, parce que Trois-Rivières était petite, une petite ville, tout le monde se connaissait. Mon papa était très actif, il avait fondé le club Kiwanis, il faisait beaucoup, beaucoup de bénévolat, il était dans l'assurance, tout le monde connaissait. Et une petite fille est arrivée un jour, puis elle m'a dit, tu sais, moi je te dis ça pour que te rendre service, parce que il faut que tu saches que tu as été vendue par des Zoulous, tu étais la dernière d'une famille de 14 enfants, et c'est les religieuses missionnaires de l'Immaculée Conception
oui.
qui t'ont ramené ici, et les Hudons t'ont adopté.
Bon.
Mais bon.
Quelle histoire.
Et c'est, oui. Moi, on m'avait dit à l'âge de 3 ans que la différence, on m'avait dit que ma maman était morte à ma naissance de chagrin et de complications parce que mon papa était mort en héros à la guerre quelques mois plus tôt. Voyez-vous, ça réglait le problème des
oui.
recherches.
Qu'est-ce que vos parents adoptifs savaient de vos origines?
Je les crois. Ce que je dis dans la pièce... je ne sais pas si vous savez, quand ma mère met en doute, je dis non, tu n'as pas le droit de mettre en doute mon amour peut-être, mais pas mon aveuglement, mon intuition. Ce qu'ils savaient, c'est que le bébé qu'ils ont adopté était le bébé du frère de ma mère adoptive. Hein. J'étais adoptée par un monsieur qui s'appelle Félix Hudon, une maman qui s'appelle Simone Morancy. Mon vrai père, mon père biologique, était le frère de ma maman, Simone. Il savait donc, il pensait à l'adoption depuis quelques années, mais retournons, Yves, vous n'étiez pas né, je pense que vous êtes plus jeune que moi, ou un petit peu.
À peine.
En 42, c'était une toute autre société. Les enfants qu'on adoptait, alors moi je me rappelle beaucoup plus tard que ma mère m'avait dit pourquoi j'ai pas eu de petits frères, de petites sœurs, et bon, elle m'a dit on avait peur, on connaissait pas les parents. Et je pense que aux médecins qui favorisaient l'adoption, ils disaient toujours on sait pas, peut-être que le père est alcoolique, peut-être que la mère est prostituée, elle est peut-être malade. Alors le jour où le médecin de famille a appelé mes parents et a dit c'est la dernière fois que je fais une tentative pour vous trouver un bébé, parce que il faut dire que ça faisait déjà 5 ans qu'il essayait de le retrouver et ça ne faisait jamais. Et donc, là, mes parents m'ont raconté que le soir, ils ont reçu un coup de téléphone très tard et le médecin leur a dit le bébé de votre frère, Simone, est-ce que ça conviendrait? Alors, c'est comme ça qu'ils ont pris la décision sans savoir que je serais une fille ou un
oui.
garçon. Il n'y avait pas d'échographie. Et c'est là qu'ils ont dit... Alors, ils savaient que j'étais le bébé de leur frère.
Donc,
mais,
ils savaient qui était...
Mais ils savaient...
La mère.
Mais oui, ils avaient une photo de ma mère. Mais le nom, et je crois... Et c'est là que je persiste à croire, peut-être parce que je veux bien le croire, mais je crois que mon papa, qui m'adorait, m'a dit tout ce qu'il savait, c'est-à-dire, c'est une demoiselle Leblanc. Et c'est tout ce que je sais. Je ne sais ni où elle est et je ne sais même pas son prénom.
Et quand vous avez su par un cousin
oui.
qui lui vous a dit, on est frères et sœurs finalement.
Oui, par le fils
oui.
de mon père. Si
oui,
je
du père biologique. Lui savait qui avait été votre mère. Il ne pouvait rien vous dire?
Pas du tout. Le cousin n'avait aucune idée. Il ne pouvait pas savoir qui était
ma
mère.
Pas le cousin, mais le père.
Oui,
son père.
Il m'a dit qui était ma mère, d'ailleurs.
Et il ne restait pas de famille de cette femme-là dans les environs? Parce que vous partez sur une recherche qui dure des années.
Mais oui, ma recherche dure 15 ans.
Oui. Mais lui, il n'a pas pu vous dire telle famille, c'était une Leblanc
tout
de telle...
Tout ce qu'il m'a dit, oui, c'est-à-dire qu'il m'a dit, c'était son prénom, c'était Irène Leblanc. J'ai su le nom de ma mère par mon père. Mm-hmm. Irène Leblanc, nous étions dans la même paroisse, la paroisse à l'époque Notre-Dame-du-Chemin. Et il me dit, tout ce que je sais, c'est qu'elle a épousé un militaire. En fait, c'est un aviateur. Ouais. Elle a épousé un militaire et elle a quitté le Québec très tôt après ta naissance. Ce qui était vrai. Et
il ne savait rien sur sa famille proche à elle.
Maintenant, je pense qu'il devait connaître ses frères et sœurs. Mais
il l'a pas dit à
l'époque. Il ne m'en a jamais dit. Il ne m'en a jamais dit un mot. Je pense que c'était vague. Il faut comprendre que l'événement que vous relatez se passe en 75 et j'étais née en 42. Je n'ose pas l'accuser de mauvaise foi. De toute façon, j'ai fait allusion assez rapidement. Il ne souhaitait pas tellement que je retrouve ma mère.
On s'arrête de nouveau. René Hudon, on revient sur la suite de cette aventure. Dans la pièce, vous racontez, ou enfin les personnages racontent que vous commencez, enfin votre père adoptif a l'intuition ou vous lui avez dit que vous avez commencé des recherches pour savoir qui est votre mère.
C'est-à-dire que, vous me permettez juste de préciser, parce qu'on a beau assister à une pièce de théâtre, vous n'aviez pas une enregistreuse à côté de vous. Lorsque mon cousin, que j'ai retrouvé à Radio-Canada, aux ressources humaines, m'apprend, parce que je retournais dans mon métier, m'apprend qu'il croit, il n'est pas convaincu, il croit que nous sommes demi-frères et sœurs, que nous avons le même père. Et il me dit, les seules personnes qui peuvent confirmer mes dires, c'est ton père et ta mère adoptifs. Et là, c'est là où j'ai filé à toute allure vers eux, et je leur ai dit, je viens de...
D'apprendre,
ouais. Bon. Et je vais passer parce que je risque de m'étendre un peu trop sur ce sujet. Et là, évidemment, ils ont dû me dire que ce n'était pas vrai que mon père était mort à la naissance, mais que ma mère n'en savait rien.
Ils ont dû corriger, oui.
Et c'est ça. Et mon papa, Félix, a sorti cette photo. Il m'a dit, c'est une demoiselle Leblanc, je te jure que c'est tout ce que je sais. Et peu de temps après, lorsque j'ai retrouvé mon père, là, j'ai eu le prénom, et là, j'ai commencé mes recherches. Donc, ce n'est pas l'intuition, c'est que j'ai dit à mon père que je souhaitais commencer mes recherches, et c'est lui qui m'a conseillé. Il a été extraordinaire, ce père. Je parle surtout du père, non pas que ma mère n'ait pas été extraordinaire, mais elle n'était pas capable, c'était trop. Elle ne pouvait pas en parler. Je n'en parlais pas avec elle. Je ne voulais pas la briser, la troubler. Ouais. Donc, mon père étant plus solide, il m'a dit, je te conseille d'aller aux archives de la ville de Québec et c'est là que tu risques en donnant, parce que je lui ai dit quelque temps après que j'avais eu son prénom, il dit, va aux archives, donne le prénom, l'année approximative. Alors, vous voyez, il m'a quand même aidé.
Il vous a mis sur une piste. Mais il y a une scène, si ma mémoire est bonne, encore une fois, dans Jeanne à jamais, où vous l'accompagnez au moment d'entrer à l'hôpital.
Oui, c'était ses dernières heures.
Et il vous dit... Vas-y, si tu veux trouver tes parents ou ta mère, vas-y. Mais n'en parle pas à Madeleine.
Mais je t'en supplie, n'en parle pas à
Madeleine étant votre mère adoptive.
Oui, enfin, c'est les noms au théâtre. On se promène dans différents noms. Là, je m'excuse pour les auditeurs, mais c'est qu'on l'a peut-être pas précisé pour que c'est quand même du théâtre. Et j'avais aussi un peu de fiction et c'était un exercice. Nous avons choisi de changer les noms. Je m'appelle Louise, qui était mon nom d'ailleurs que ma mère m'avait donné à la naissance.
Et
Il m'a dit, je t'en supplie. Fait en sorte que Madeleine ne le sache jamais, elle en mourrait.
Et l'a-t-elle su, Madeleine?
Elle ne l'a jamais su. Jamais.
Avez-vous retrouvé votre mère?
Deux ans avant sa mort.
et elle n'a rien su.
Jamais, jamais. Et ma maman biologique, ma mère Irène, aurait souhaité la rencontrer. Elle voulait. Ma mère était hospitalisée. Elle n'avait pas. Elle n'était pas encore atteinte d'Alzheimer, mais ça se serait. Si elle avait vécu plus longtemps, les choses auraient évolué. Elle avait des problèmes de mémoire, mais heureusement pas assez pour ne pas me reconnaître et tout ça. Elle avait de la confusion, mais elle avait quand même. Et ma mère Irène m'avait même supplié. Elle m'avait dit. Tu sais, j'aurai le tour, je voudrais juste la remercier. Je ne voudrais pas qu'elle meure sans que je la remercie. Et ça a été une grande déception pour ma maman biologique de ne pas pouvoir remercier ma mère adoptive. Mais moi, je connaissais ma maman, Simone Madeleine, et jamais. C'était une femme profondément insécure qui aurait eu l'impression que je la laissais tomber.
En retrouvant votre mère biologique, donc en retrouvant Irène, vous apprenez que vous avez deux frères.
Oui, j'ai deux demi-frères.
Comment s'est fait cette retrouvaille? Là, vous avez une famille tout à coup.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est gommé dans la pièce. On n'en parle pas beaucoup, des demi-frères.
À cause de l'heure 15.
D'accord.
Mais vous savez que je suis en train, j'ai pris des vacances tout de suite après. Je vous avoue que j'en avais besoin. Et avec Richard, toujours, nous avons déjà passé 4 heures et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour finaliser. J'ai fait 30 heures de correction. 30 heures au moins de correction pendant mes 3 semaines de vacances, correction de la langue, correction de certains passages, parce que les deux merveilleuses comédiennes, Linda Laplante et Denise Verville, en les entendant, m'ont fait remarquer, ah bon, non, ça ce n'est pas clair, ça je n'ai pas compris, ça bon. Et pour le texte écrit que je souhaite éditer, là, je vais commencer des démarches d'éditeur.
Mais là, vous bifurquez, mais je veux savoir ce qui est arrivé avec vos deux frères.
Donc, je vais en parler un peu plus. J'ai deux frères américains parce que ma mère avait épousé un russe, mais né aux États-Unis, russe américain. J'ai deux frères américains qui avaient toujours rêvé d'avoir une sœur, qui sont évidemment plus jeunes que moi, un qui a 5 ans de plus jeune que moi et l'autre vient d'avoir 50 ans, il a 12 ans de plus jeune que moi. Et ça a été des retrouvailles très touchantes. Je ne peux pas dire que je les vois, je ne les fréquente pas beaucoup, mais je les vois au moins une fois par année. Et je suis leur grande sœur. Et c'est toujours des lettres de Big Sister, puis I love you. C'est toujours, on s'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont d'une tendresse envers leur grande sœur. Et ils sont très reconnaissants parce qu'ils sont loin de leur maman. Ils sont américains. L'un est à New York et l'autre en Caroline du Nord maintenant. Et pour eux, c'est une consolation. Alors, vous voyez comment la vie arrange
bien les choses.
Oui.
Et de l'autre côté, il y avait un mari et des enfants qui vous supportaient dans cette recherche.
C'est-à-dire, je pense que si je leur en avais parlé, ils m'auraient supporté, mais je ne leur en ai pas parlé.
Vous les avez placés devant le fait accompli.
Oui, voilà. Je pense que mon compagnon de vie est à l'écoute et mes enfants, je ne crois pas parce que une est plus loin et les autres sont au travail, mais je n'étais pas capable. J'y pensais, je l'ai fait seule avec mon avocat qui était un ami d'enfance, qui m'a beaucoup, beaucoup supporté, mais j'avais tellement peur d'un rejet. Je ne me sentais pas la force d'affronter. Je me sentais toute la force du monde pour essayer de la trouver, mais il me manquait cette force dont j'aurais dû m'armer contre un rejet éventuel. Et ça, je voulais le vivre seul parce que je l'aurais perçu comme une humiliation aussi. Deux fois rejetée dans une vie, je trouvais ça beaucoup. Et j'ai annoncé la nouvelle à mon mari et à mes enfants une semaine exactement avant de me rendre dans le nord de Montréal, lorsque je lui ai parlé au téléphone et que je savais que j'allais la retrouver.
René Hudon, il y aurait 1000 autres questions que je voudrais vous poser, mais très brièvement parce que le temps court. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même en retrouvant votre mère?
Avez-vous 2 jours?
On peut.
J'ai appris que la génétique à des forces insoupçonnées, des vérités insoupçonnées qu'on doit assumer, quelle que soit la génétique. Et j'ai assumé par ailleurs que les parents qui nous adoptent nous laissent autant de de signes d'eux-mêmes. Alors, je pense que je suis un mélange de cette chère Irène et de cette chère Simone et Félix. Et c'est bien que ce soit comme ça. Et je pense que s'il y a des parents adoptifs et des parents biologiques, je pense qu'ils doivent être conscients que l'enfant qu'ils adoptent est à 50% fait de ce qu'ils leur ont fait. Et il faut aussi qu'ils acceptent qu'il y a un autre 50% qu'ils ne découvriront peut-être jamais. Mais je le souhaite de découvrir aussi.
Parce qu'on dit souvent à un enfant, « Ah, là-dessus, tu ressembles à ta mère. Ah, là-dessus, tu retiens moi. »
Oui.
Dans le cas d'un enfant adopté, quand on lui dit ça, c'est de l'acquis, c'est pas dans sa propre nature.
Oui, mais on n'y pense pas. Ça va peut-être rassurer les parents adoptés. Moi, j'étais fière. On me disait que je ressemblais à mon père, que j'avais beaucoup de talent de ma mère. J'étais très fière de ressembler à mes parents Hudon, même si je savais que j'étais adoptée. Souvent, je n'y pensais même plus. C'était mes parents, c'est toujours mes parents. Je n'ai jamais appelé ma mère biologique maman, jamais. C'est toujours Irène, et pour elle, je suis sa fille. C'est toujours Irène, mon amie, ma mère. Mais ma maman, c'est mes parents adoptifs, c'est ma maman et mon papa.
Vous avez déjà entendu la belle chanson de Gilles Vigneault, Madame Adrienne?
Il y a longtemps, mais je n'ai...
Non, c'est sur son dernier disque, Madame Adrienne, c'est sur le disque
Au bout du
cœur.
Qui a eu un enfant, Madame Adrienne, oui, j'ai entendu ça, mais c'est récent.
C'est récent, cette histoire-là.
Est-ce que vous l'avez?
Si vous mettez vos écouteurs, on
Quel beau cadeau. Petit détail, la première conversation avec ma mère, elle s'était réfugiée au presbytère, l'endroit où elle se sentait le plus en sécurité. Elle avait tout confié au curé de la paroisse et c'est au presbytère qu'elle a senti la liberté de pouvoir me parler. Je voulais simplement vous le signaler. C'est un lieu de refuge.
On écoute Madame Adrienne.
Elle ne fait peur à personne et pas plus de bruit que son pas. Elle ouvre à tout enfant qui sonne, mais les journaux n'en parlent pas.
Madame Adrienne, c'est une infirmière qu'un chagrin d'amour exila très tôt. Ses enfants sont ceux que le malheur génère et qu'on abandonne dans les hôpitaux. Ce qui fait qu'au moment de prendre sa retraite, Madame Adrienne avait 7 enfants. 3 petits garçons et 4 fillettes qui vivaient chez elle et disaient « Maman ».
Elle ne fait peur à personne et pas plus de bruit que son pas. Mais les journaux n'en parlent pas.
Elle avait 20 ans, la belle Adrienne, quand son amoureux devint son amant. Leur bonheur durait depuis 6 semaines, quand elle eut compris qu'elle était maman. L'honneur en ces temps voulait qu'on s'exile, garder le secret et faire semblant qu'on avait trouvé du travail en ville et qu'on reviendrait pour le jour de l'an.
Elle ne fait peur à personne et pas plus de bruit que son pas. Elle ouvre à tout enfant qui sort, mais les journaux n'en parlent pas.
Âgé de 3 jours, baptisé Étienne, l'enfant de l'amour était adopté. On persuada la belle Adrienne qu'ainsi son secret serait bien gardé. Le sort est cruel pour la fille mère, mais avec le temps, les témoins s'en vont. Elle est devenue la belle infirmière et n'a retenu qu'à peine un prénom.
Elle ne fait pas la personne et pas plus de bruit que son pas. Elle ouvre à tout enfant qui sort, mais les journaux n'en parlent pas.
Il faut vous dire ici que Madame Adrienne, pour ses 80 ans, tenait toujours maison et faisait son marché et faisait des novennes, rêvant de retrouver un beau jour son garçon. Or, un matin d'hiver, l'aînée des 4 filles qui vivait avec elle et la suivait partout la trouva affaiblie et se plaignant beaucoup. Malgré les « je vais bien » et « ce n'est pas la peine », Armande a décidé « j'appelle un médecin ». Vint donc un homme âgé, au bord de la retraite, qui remplaçait parfois un confrère occupé. Il s'informe, Il ausculte, examine et questionne, et prescrit du repos. La patiente, à son tour, se reprend à parler de sa vie d'infirmière, puis d'un chagrin d'amour et de l'enfant perdu, puis de la barbarie au masque de vertu qui bannissait l'enfant, le privant de sa mère, au nom d'une morale insensible à l'amour. Je reviendrai vous voir. Il revient tous les jours. C'est qu'il a 60 ans et qu'il s'appelle Étienne. Il sait que sa maman s'appelait Adrienne et qu'il fut adopté. Il sait bien où et quand. Elle dit souvent, Madame Adrienne, que les grands bonheurs ont le pas très lent. Elle aura 100 ans dans les 3 semaines et sur son passé s'est repris 20 ans. Les enfants perdus qu'était sa famille ont tous des enfants qu'elle gâte un peu. Elle a les joues roses et les yeux qui brillent et plein de projets pour chacun d'entre eux.
Elle ne fait peur à personne et pas plus de bruit que son pas. Elle ouvre à tout enfant qui sort, mais les journaux n'en parlent pas. Elle ne fait peur à personne et pas plus de bruit que son pas. Elle ouvre à tout enfant qui sort, les journaux n'en parleront pas.
René Hudon, cette chanson est remplie de situations qui auraient pu être écrites par Maman Irène.
Oui, quoique Adrienne est très différente de tempérament, oui. Mais je vous remercie parce que je l'ai entendue rapidement et j'avais retenu, mais j'étais dans mon automobile et j'étais un peu en état de choc, mais je n'ai jamais réécouté la chanson. Merci beaucoup. Je suis très émue, c'est absolument incroyable. Oui.
Ça réfère à peu près à une même époque où...
Oui, effectivement, il parle du masque de vertu, la société de l'époque. C'est très complexe, tout ça. Et aussi, dans la pièce « J'en ai jamais », nous avons voulu, Richard et moi, tracer un portrait, esquisser un portrait des années 40, mais en 1h15,
oui, c'est
toujours très court.
La réduction.
Hein, c'est toujours très court.
Je reviens toujours à mes questions où je me suis posé, je me suis interrogé à savoir le hasard ou les coïncidences ou la justesse de ce que vous racontez. C'est pour ça que je vous ai posé comme toute première question. La vérité, est-ce que tout est vrai?
Presque.
Vous avez été 3 fois dans votre vie en présence l'une de l'autre. Votre mère adoptive et vous, petit bébé dans le carrosse, Côte de la Fabrique. C'est vrai, cette scène-là?
Ça, c'est très vrai, oui.
Parce que vous racontez à un moment donné, enfin, le personnage de Louise dans la pièce raconte que vous avez l'idée qu'un jour, quelqu'un va vous reconnaître, va dire, mais cette fille-là a des traits, elle me ressemble, ou que vous-même puissiez croiser quelqu'un sur la rue en disant, mais cette personne-là me ressemble, il y a quelque chose.
Oui, et moi, je me disais, si ma mère me voit, parce que c'est naïf,
oui.
Hein, ma mère est blonde aux yeux bleus, alors que je suis brune aux yeux bruns verts, mais ma mère plus jeune, j'avais aussi des cheveux blancs. Alors, c'est très naïf de ma part. Vous savez, la naïveté n'a pas d'âge dans certains cas, hein, quand c'est une naïveté souhaitée. Et je me disais, mais un jour, cette femme-là va me regarder à la télé, dans la rue, puis elle va me reconnaître. Et elle pensait, à l'époque, vous faites allusion au petit bébé des Hudon, ouais, dans la cour de la fabrique. Mm-hmm. Elle se disait, c'était un an après ma naissance, c'était avant qu'elle rencontre son russe de mari. Et elle disait, moi, je me promène dans toutes les rues et je regarde tous les bébés et je vais les reconnaître.
Je vais sûrement les reconnaître.
Oui.
Et alors qu'elle vous a vu.
Mais celui-là, elle n'a pas reconnu. Évidemment, j'étais toute petite à la naissance et à un an, j'étais déjà assez ronde.
Ouais.
Et bon, voilà.
Vous disiez justement avoir profité au moment où c'est l'exposition de Vancouver, où vous avez une émission de télévision et vous trouvez toute chanceuse d'être si souvent à l'écran parce qu'il y a quelque part une femme qui va vous reconnaître.
J'étais convaincue. Là, il faut dire que j'étais en plein enthousiasme de délire de recherche et je me disais, je ne peux pas croire que sur tout le réseau français de Radio-Canada, malheureusement, je n'avais pas prévu qu'elle n'écoutait que le réseau anglais. Son mari ne parlait pas un mot de français.
Ce qu'on apprend, oui, dans la pièce.
Et je dis, il n'y a pas un Marshall au Canada qui n'avait pas reçu un téléphone d'une hystérique de Québec qui cherchait sa mère.
Oui. Autre circonstance, ils ont assisté venant à Québec, apprenant que Hitchcock est en train de faire un film, ils veulent voir ce qui se passe et voient ses enfants dont vous êtes.
Mais est-ce que je suis sous serment, Yves, là? Hein? Parce que là, si je suis sous serment, je vais devoir vous dire toute la vérité. Mais je préférerais ne pas dire, je préfère ne pas faire la part des choses entre la fiction D'accord. et la réalité. Okay. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les faits que je raconte sont, je dirais 90% sont vrais, ou presque vrais, à des petits détails près. Oui.
Parce que c'est tellement de coïncidence. Et vous vous retrouvez sans vous obliger au serment,
à la mort du médecin,
à la mort
au funérail du médecin, qui avait refusé de me dire et qui la connaissait très bien. C'était le médecin de famille, mais il était aussi le grand ami de mon papa. Enfin, il était le médecin aussi de la famille, de ma famille à moi. Et la conscience le secret professionnel, c'est décevant, mais c'était ça. Oui. Et dans les deux sens, ça a joué et pour elle et pour moi. Elle est revenue, elle habitait Beyrouth à ce moment-là. Elle est revenue pour lui arracher son secret. Et ça, c'est authentique. Il était décédé depuis quelques jours.
Et encore là, vous êtes dans le même espace et vous ne vous reconnaissez pas. Ce qui veut dire que cette idée naïve que...
Oui, à l'église Saint-Dominique, les funérailles de ce bon médecin.
Autre élément qui m'a fasciné aussi de Jeanne Ajamet, ce sont les éléments de coïncidence. Mm-hmm. Quand vous racontez, par exemple, que vous êtes à la recherche et que vous avez fini par la trouver, c'est la période où vous jouez dans Dialogue des Carmélites, mise en scène de Françoise
Fauché. C'est authentique.
Vous dites ça à Françoise Fauché, mais elle dit, mais je la connais, c'est ma voisine.
C'est que moi, c'est-à-dire que j'avais dit à Françoise que je cherchais ma maman, mais sans juger nécessaire de lui dire le nom, ce n'était pas important. Et quand j'ai trouvé ma mère, j'étais folle de joie et Françoise est devenue une amie, une complice. Elle m'a prise dans ses bras et j'ai dit, j'ai trouvé ma maman. Elle habite à Sainte-Anne-des-Lacs dans les Laurentides. Mais moi, je ne savais pas que Françoise, elle ne nous racontait pas sa vie. Elle travaillait beaucoup, comme metteur en scène. Je ne savais pas qu'elle avait une maison de campagne à Sainte-Anne-des-Lacs. Et quand j'ai dit, j'ai trouvé ma maman et elle me dit, où habite-t-elle? Ça a été un peu plus court dans la pièce, mais je précise. Mais je dis, elle habite dans le nord de Montréal, à Sainte-Anne-des-Lacs. Elle me regarde, me dit, j'ai aussi une maison à Sainte-Anne-des-Lacs. Et là, je vois encore les magnifiques yeux de transparents de Françoise Fauché. Elle dit, comment s'appelle-t-elle? Et je donne le nom de ma mère. Et elle dit, c'est ma voisine à Sainte-Anne-des-Lacs. Enfin, on a mis voisine, mais c'est à une rue de chez ma mère. Très bien.
C'est quand même... c'est après les mille et un détours que vous avez fait pour trouver...
J'aurais sauvé quelques mois, quoi. Oui.
Et l'autre coïncidence qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est ce lien que vous avez complètement en ne vous connaissant pas. Elle a une belle-mère russe et vous avez une belle-mère
russe. Nos deux, et ça, c'est authentique. Ça, même si j'avais... vous pouvez m'apporter une Bible, Nos deux belles-mères sont nées à Saint-Pétersbourg. Et ça, c'est... Écoutez, vous vous rendez compte? Je trouve cette femme, j'ai 47 ans, et elle en a 67, et elle me demande, parle-moi un peu de ton mari, et je dis, c'est un homme extraordinaire, mais tu sais, un peu particulier, quand on a du sang russe, sa maman est née à Saint-Pétersbourg, et là, elle m'entre littéralement les doigts dans l'avant-bras, et je dis, mon Dieu, est-ce qu'elle est xénophobe, ou qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoute-moi bien. Ma belle-mère aussi est née à Saint-Pétersbourg. Alors, cet attrait pour le charme slave, appelez ça comme vous voulez, je parle de génétique.
Ça fait un peu partie, quand je vous demandais tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même?
J'ai appris, il y a un vieux proverbe, un proverbe russe qui dit « Une pomme ne tombe jamais loin du pommier ». Dans mon cas, c'est évident. Et nous avons quelques différences, mais des tempéraments semblables. Je suis plus sage que ma mère.
Ce sont les traits de l'éducation, peut-être?
C'est certainement peut-être l'équilibre que tout ça a apporté. Ma mère a une énergie que je n'ai même pas. Elle a une énergie absolument incroyable qu'elle tenait de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. Ce que j'ai appris, c'est que je descends d'une lignée de femmes fortes, généreuses, aimant la vie, énergiques, et ça, c'est le plus beau cadeau. Je pense que si on me demandait de quoi je suis si fière, c'est de mon ascendance maternelle. Je suis fière de ces femmes dont j'ai, je l'espère, hérité un peu du courage, de l'initiative, de l'audace, du talent, de l'équilibre, des femmes optimistes, des femmes sereines, alors que ça, je ne le tenais pas de ma maman adoptive. Ouais. Je tenais d'autres choses, mais pas ça. Je pense que nous sommes une lignée d'optimistes et je regarde ma fille, qui, elle aussi, parfois, a quelques épreuves à traverser, et elle est forte, elle est solide, elle est optimiste. Et elle me dit, j'ai dit, tu descends de Zélika, tu descends de Caroline, d'Irène, de moi.
Ça, ça habille, ça construit toute votre histoire de famille, finalement.
Voilà.
Votre c'est passé, ça. Vos antécédents.
Oui. Et ça m'aide, dans l'ensemble, à mieux me comprendre.
Vous auriez adopté?
Ah, mais certainement, j'avais fait une demande d'adoption, moi. Après la naissance d'un premier enfant, j'ai perdu deux petites jumelles identiques, une qui a vécu quelques heures, et le médecin m'avait dit, c'est préférable peut-être de ne pas redevenir enceinte. Et j'ai fait tout de suite, à ce moment-là, c'était la sauvegarde de l'enfant sur la rue d'Auteuil. Je vous jure que c'est vrai. Ouais. Et comme les choses arrivent souvent...
Au coin de Saint-Anne.
C'est ça. Et là, je me suis dit, non, moi, je vais essayer d'avoir un enfant, mais je ne devenais pas enceinte tout de suite. Et... à peu près 5-6 mois après avoir fait la demande, je suis devenue enceinte d'un autre couple de jumeaux. Alors, je n'ai jamais adopté, mais si j'avais l'âge, j'en adopterais encore beaucoup.
René Hudon, merci beaucoup de cette grande générosité que vous avez eue de nous parler de votre histoire qui sûrement rejoint beaucoup de monde, touche beaucoup de monde.
Ben moi, je vous remercie de la sensibilité avec laquelle vous l'avez reçue. Merci.
À Vivant dans nos mémoires, vous venez d'entendre une entrevue réalisée en 2004 par Yves Houd avec René Hudon, animatrice de radio et de télévision, décédée en 2023.